Je suis content d'avoir l'occasion de vous présenter quelques réflexions dont, en fait, l'origine se trouve à Chicago, où on avait évoqué la question suivante: que peuvent apprendre les philosophes du concept de tradition? Ça avait été d'ailleurs une soirée assez intéressante, assez musclée, puisqu'il y avait McIntyre d'un côté, Charles Taylor au milieu et moi à la fin. Donc, je pense que c'est une question, c'était un sujet, si je puis dire, imposé. Mais en réalité, c'est un sujet dont j'ai découvert qu'il était tout à fait fondamental. Alors, ce que je vais faire, c'est faire quelques remarques sur l'usage réel, de fait, que les philosophes ont fait de la notion de tradition. Et après, j'opposerai le concept de tradition en philosophie, qui peut-être servir de modèle ou de cadre général pour d'autres usages de la tradition dans d'autres disciplines, et la question de la tradition en théologie, parce qu'il y a une grosse différence, et cette différence mérite d'être notée. Alors, première remarque. Avant de répondre à la question sur ce que les philosophes peuvent apprendre de la tradition, il faut d'abord se constater que le mot tradition en philosophie n'est pas d'abord un concept. C'est essentiellement une arme idéologique qui n'a aucune pertinence conceptuelle. On peut lui conférer une acception négative, très, très courante, quand traditionnel sert à disqualifier l'énoncé de l'adversaire, incapable, dit-on, d'accéder à la ou de tolérer la modernité. Exemple, Descartes critique le concept traditionnel de substantia qui est enseigné par la scolastique. Alors, ne demandez pas ce que veut dire scolastique. La scolastique, évidemment, ça ne veut rien dire, et concept traditionnel, ça ne veut rien dire. La preuve, c'est qu'on peut retourner la même phrase, vous avez dû voir ça souvent, pour ceux qui font de la philosophie, Spinoza a critiqué le concept traditionnel de substance, qui est chez Descartes. Donc, dans cette acception du terme, tradition souligne l'autorité et la dignité incontestable d'un énoncé, et c'est pour ça qu'on l'attaque. Mais on peut aussi utiliser polémiquement, tradition, de manière positive. Et on dira, comment osez-vous dire ceci alors que le concept traditionnel, tous les penseurs sérieux ont toujours dit le contraire. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites si vous contestez le fait que l'intentionnalité husserlienne va traditionnellement du jeu transcendantal vers l'extérieur, et qu'il y a une intentionnalité qui vient de l'extérieur sur le jeu, vous ne pouvez pas dire ça, puisque tout le monde sait bien que, depuis Husserl, l'intentionnalité est toujours centrifuge. Alors, cette ambiguïté, elle est polémique. Elle est intéressante parce qu'on la retrouve dans d'autres domaines, puisque j'avais choisi de faire prendre comme contrepoint la théologie. Il est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a les deux emplois de tradition. L'emploi positif, l'emploi négatif, c'est par exemple dans Marc 7, 8, où il est question de la tradition des hommes. C'est le Christ qui s'oppose à la tradition des hommes soutenue par les représentants du Temple. Ou encore, on parle de la tradition des anciens. Marc 7, 4, Matthieu 15, 2. Et Saint Paul, dans la célèbre formule de l'Épître aux Colossiens 2,8, si elle est de Saint Paul, il parle de la philosophie et de la tromperie vide suivant la tradition des hommes. Mais en même temps, le même Saint Paul, dans la première aux Corinthiens 11,2, dit: gardez mes traditions comme je vous les ai transmises. Donc on a les deux usages. En d'autres termes, il ne va pas de soi que tradition soit un concept stable, puisqu'il peut être utilisé polémiquement, sans définition précise, et virer du positif au négatif. C'est la question. Deuxième point, comment la tradition néanmoins intervient, non pas tant comme mot, mais comme geste intellectuel, comme interlocuteur du philosophe, en philosophie? Aucun philosophe, en fait, ne peut s'en tenir à la tradition. On peut même dire que la philosophie commence quand on met en doute les traditions écrites. Le meilleur exemple, c'est celui d'Aristote, qui est sans doute le meilleur et le plus fidèle représentant et successeur de la tradition platonicienne en son temps, et qui est celui qui a dit que il est ami de Platon, mais qu'il est ami encore plus de la vérité. Et on peut dire que rompre avec la tradition, c'est le début de la philosophie, c'est traverse toute la philosophie. Je cite Adorno dans les thèses sur la tradition, c'est un texte qui se trouve dans les Parva Esthetica, paru en 67, qu'il dit très bien, la tradition est en contradiction avec la rationalité. Tradition steht im Widerspruch zur Rationalität. Ou bien c'est la rationalité, ou bien c'est la tradition. Alors cette évidence n'a pas besoin d'être exposée, tant elle est commune, et pourtant, on peut dire aussi que l'ambition de celui qui rompt avec la tradition, de celui qui veut faire table rase, celui qui veut, pour parler comme Bacon par exemple, celui qui veut revenir aux choses mêmes, selon le mot d'ordre de Husserl, celui-là, et on en le vérifie tout au long de l'histoire de la philosophie, celui-là veut en fait refuse la tradition pour en commencer une autre. C'est l'ambition d'un nouveau commencement qui justifie qu'on rompe avec la tradition et qui, en même temps, n'aurait aucun sens si ce nouveau commencement n'était tenu pour le bon commencement et donc le seul fondement de la tradition à venir. C'est donc, en fait, dans le refus de la tradition, on joue la nouvelle tradition contre l'ancienne. Mais on ne sort pas de la question de la tradition. Alors, la relation entre la tradition et l'innovation est en effet beaucoup plus complexe et subtile qu'une simple opposition. D'abord, l'innovation présuppose la tradition, au moins négativement. Déclarer un commencement sans histoire, sans passé, sans point de repère, cela conduit, la plupart du temps, à répéter le passé sans le savoir, ni sans s'en apercevoir. Il ne suffit pas de ne rien savoir pour ne rien devoir à ses prédécesseurs. Il ne suffit pas de tout ignorer pour recommencer. Vous connaissez le célèbre principe des philosophes d'Oxford et de Cambridge, d'Oxbridge, qui disent, en plaisantant, mais en fait en étant très sérieux, qu'un vrai philosophe ne lit jamais de livres et n'en écrit jamais. Ce qu'il vérifie, pour la plupart, parfaitement bien. Mais il suffit d'en lire certains pour s'apercevoir à quel point ils répètent ou retrouvent des problèmes traditionnels avec une naïveté confondante. Il y a une note, je crois que c'est dans « On Denoting » de Russell, où il met en note, il parle de l'être, il met en note, il faut quand même faire très attention parce que le mot « être » est assez polysémique. Il veut dire beaucoup de choses et il donne une petite liste de différences. En gros, c'est avec moins de précision les sens d'Aristote. C'est le toan polakos d'Aristote. Mais c'est mis en note comme ça et visiblement il a improvisé. Enfin, il voulait avertir le lecteur qu'il y avait une petite difficulté là, mais enfin que lui... Ça, c'est dans la note. Lui, dans le texte principal, évidemment, il dépassait ses hésitations. Alors ça, c'est l'exemple type du fait que l'ignorance de la tradition n'est pas suffisante pour permettre une innovation. C'est même souvent exactement le contraire. L'innovation, en effet, ne devient concrètement possible que si le commencement commence par détruire ou déconstruire une thèse supposée évidente et en fait non justifié, et c'est précisément la puissance de critiquer, et donc d'abord d'identifier la thèse que l'on déconstruit, qui est l'indication de la réussite du nouveau commencement. En d'autres termes, plus on creuse, plus les fondations sont sérieuses. Donc le problème n'est pas qu'il faudrait interdire de démolir, interdire les chantiers de démolition en philosophie. C'est que si on veut faire un nouveau commencement, il faut que la démolition soit radicale. Et on ne peut pas faire une démolition radicale si on ne sait pas ce qu'on démolit. Alors, c'est un point capital, c'est que tout commencement doit être un recommencement et donc doit savoir ce qu'il défait. C'est d'ailleurs pourquoi, soit dit entre nous, je ne sais pas si ça vaut pour d'autres disciplines, mais en philosophie, on ne peut faire de la philosophie que si on a fait beaucoup d'histoire de la philosophie. Autrement, c'est son ignorance même qui nous permet des découvertes faciles. Deuxièmement, toute innovation, dans la mesure même où elle recommence vraiment et solidement, produit après coup une tradition. Et la tradition qui vient après le commencement est en fait la preuve a posteriori de l'avancée et de l'indice d'innovation, si je puis dire, du nouveau commencement. C'est à mesure que le recommencement s'assure de son progrès, développe ses potentialités, qu'il suscite la dimension, une tradition rétrospective correspondante. Supposons que je choisisse de faire un recommencement empiriste. J'assume que les données sensibles, les sciences data, peuvent se déployer sans autre présupposé et qu'elles seront donc mon unique présupposé. Immédiatement à partir de là, je reconstruis une tradition. C'est-à-dire que je vais présupposer que font partie des philosophes d'importance, dont je dois tenir compte, justement ceux qui ont partagé, au moins approximativement, cette définition de la philosophie par l'empirisme. Je parlerai donc de Locke, de Condillac, de Hume, du cercle de Vienne, de Carnap, et si je suis un grand historien, un petit peu d'Aristote, un petit peu de Kant. Admettons que, au contraire, je me rallie à la philosophie critique. Dès lors, l'assomption des jugements synthétiques a priori deviendra la clé de tout retour à Kant, c'est-à-dire de nouveaux commencements. À ce moment-là, je construis une tradition qui sélectionne Kant, une partie de Fichte, Schopenhauer, tous les Kant-Bücher, depuis Cohen jusqu'à la Torp, Husserl, Heidegger, Cassirer, etc. Suis-je cartésien ? Alors, le premier principe, celui qu'on assigne au cogito ergo sum, va impliquer lui aussi toute l'histoire antérieure de son invention, depuis Saint-Augustin jusqu'à Descartes, et aussi toute l'histoire qui succède à Descartes, l'histoire de sa réception et de sa critique. Donc je vais considérer comme philosophe la tradition de Malebranche, Locke, Rousseau, Kant, Schelling, Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Entica, etc. Mais l'exemple le plus frappant de cette invention, de l'invention d'une tradition au nom d'un nouveau commencement, c'est justement fourni par la philosophie analytique, en gros anglo-saxonne. Car c'est à partir de beaucoup d'auteurs que d'ailleurs bien des décisions séparent, mais laissons ceci de côté, que s'est institué le dernier connu, récit canonique de tradition, par les gens qui veulent, en principe, se défaire de toute tradition. C'est-à-dire que la philosophie analytique a au moins un ancêtre qui est Brentano, puis après Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, Austin, Searle, Rorty, Kripke, Strawson, etc. On peut dire que toute pratique, même radicalement, violemment ambitieuse de produire un nouveau commencement, ne fait jamais l'économie de se reconstituer une tradition ad hoc et de se mettre elle-même, de mettre son nouveau commencement dans les pas d'un ancien nouveau commencement. Un bon exemple de ceci, que je prends d'ailleurs positivement, c'est la redécouverte de la sophistique des Grecs. Et j'y songe, puisque demain nous recevrons Barbara Cassin, enfin je recevrai Barbara Cassin, et je rappellerai à l'Académie française, je rappellerai qu'il y a eu un mouvement de redécouverte de la sophistique à cause de la philosophie contemporaine, disons Deleuze, etc., et que ce mouvement n'a pu porter des fruits, quelques fruits, au moins, que parce qu'il a été soutenu par un travail philologique extrêmement sérieux, collectif d'ailleurs, dont Barbara Cassin n'est qu'un exemple visible, qui a eu lieu dans les années 60-70. C'est-à-dire, on a relu, d'un nouveau point de vue qui n'était pas celui d'Aristote ou de Platon, les textes de Gorgias et d'Antiphon et de quelques autres. Et c'est cela qui fait qu'actuellement, nous pouvons parler positivement d'une tradition sophistique. Donc, cette tradition peut devenir un nouveau commencement parce que son origine et éventuellement sa dissimulation par l'histoire de la philosophie antérieure ont été dégagées et découvertes. Il y a donc un principe que sans créer une tradition, il n'est pas possible de faire une innovation en philosophie. Alors, il y a un texte que vous pourriez lire parce qu'il est amusant. Je ne sais pas s'il est traduit. C'est un texte de Jonathan Swift qui s'appelle un récit complet et vrai de la bataille qui était livrée dans Saint James, dans la bibliothèque Saint James à Londres. Vendredi dernier, entre les livres anciens et les livres modernes. Alors Swift imagine que les livres, comme dans un film de Walt Disney, que les livres la nuit s'éveillent et que la querelle des anciens et des modernes de Charles Perrault d'un seul coup s'anime, les livres eux-mêmes se tapant dessus, représentant les différents auteurs que l'on avait un peu arbitrairement répartis entre les anciens et les modernes. Et alors c'est ainsi que les livres de Milton et du Tasse, les modernes, combattent Homère et Pindare, que Descartes et Hobbes s'opposent à Platon et Aristote, que Harouet bataille contre Hippocrate, et plus surprenant pour nous, c'est que Thomas est à côté de Bellarmine et de Duinscott pour le compte des modernes. Ce qui se dit entre nous, ça veut dire que Swift avait quand même une bonne vision de l'histoire réelle de la pensée médiévale. Hein. Parce que mettre Saint Thomas du côté des modernes avec Scott, ben, c'est ce qu'on pense maintenant. Et donc, avoir dit ça en plein 17e, c'était quand même très bien. Ça prouve qu'il avait une grosse intuition. Donc, nous trouvons une difficulté paradoxale, c'est-à-dire aucun nouveau commencement ne peut s'installer sans s'appuyer sur une tradition et sans en créer une. Alors, le premier résultat, c'est que tout discours philosophique et donc tout discours construit, c'est-à-dire écrit, tout discours construit et écrit, c'est une banalité, mais nous ne la mesurons pas, nous n'avons pas assez conscience, c'est une banalité qui implique beaucoup de choses, est pris dans une histoire. Il n'y a jamais de commencement absolu, le seul commencement absolu serait celui d'une tradition absolue. Et comme le terme de tradition est ambivalent, le commencement absolu vaut la tradition qu'il détruit, qu'il met au jour au passé, et celle qu'il va produire à l'avenir. C'est-à-dire tout nouveau commencement vaut, par sa capacité à détruire une longue tradition, ou à la surdéterminer, par la capacité à substituer dans le passé une tradition qui a été ignorée mais a montré qu'elle était absolument constitutive et aussi forte que celle qui a été détruite, et à la force du nouveau commencement se mesure à l'empire de 1000 ans qu'il va être capable d'instaurer. Alors c'est très intéressant de voir les révolutions littéraires, les nouveaux commencements littéraires. Bon, je ne vais pas m'avancer dans des domaines qui me sont moins familiers, mais si vous jugez à cela des nouveaux commencements comme le surréalisme ou le nouveau roman, il est bien clair que ce ne sont pas des nouveaux commencements. Non pas parce qu'ils ont été timides dans leur effort de radicalité, mais parce qu'ils n'avaient pas le rapport correct à la tradition, ni passé, ni futur. C'était le gros problème, d'ailleurs, de la querelle des anciens et des modernes. C'est-à-dire que les modernes, quand ils ont triomphé à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, n'ont pas tenu. Il a fallu, dès le début du XIXe, peut-être même avant en Angleterre et en Allemagne, il a fallu immédiatement promouvoir un nouveau commencement qui fut le romantisme, qui lui savait très bien d'où il venait. Qui se réclamait d'un retour au Moyen-Âge, etc., qui s'appuyait, pour être un nouveau commencement, sur une plus longue tradition. Donc, les exemples littéraires, à mon avis, sont très nombreux pour corroborer cette analyse. Alors, revenons, c'est mon troisième point, à quelques exemples du rapport entre innovation et tradition. Et, je dirais, mais même plus, de montrer comment, si on se place d'un point de vue dogmatique, proprement conceptuel, cette différence peut simplement devenir inopérante. Alors, je vais prendre des exemples historiques. Et je vais évidemment choisir des exemples dans la période que, en historien de la philosophie, je connais le moins mal, qui est la philosophie moderne, c'est-à-dire le XVIIe et la suite. Le premier exemple, c'est celui qui nous vient de Descartes. Lorsqu'il eut à répondre aux attaques d'un théologien, en l'occurrence, ce n'était pas un théologien français catholique, mais c'était un calviniste des Pays-Bas, Gilbert Voet, dit Voetius, théologien qu'il accusait de renverser la philosophie reçue à l'université d'Utrecht et d'empoisonner l'atmosphère spirituelle des Provinces-Unies, Descartes avait choisi une réponse radicale, puisque son adversaire en convenait. Le propre de la vérité, c'est qu'elle est intemporelle. Donc, disait l'adversaire, c'est la philosophie la plus ancienne qui est la meilleure, puisque les nouveautés ne font que masquer ce que les anciens savaient avec des erreurs inventées. Donc, tout énoncé vrai manifeste sa vérité par son origine. Descartes répond, ma philosophie est vraie, donc elle est la plus ancienne, alors que votre tradition supposée a simplement recouvert et dissimulé l'évidence des premières vérités, cette évidence qui ne se trouve que dans ma philosophie, que vous accusez d'être la plus moderne. C'est-à-dire que l'argument, c'est la pensée la plus ancienne qui est vraie, est absolument acceptable par Descartes. Puisque ma pensée est vraie, c'est donc qu'elle est la plus ancienne. C'était déjà connu depuis toujours. Alors, il y a des formules très claires, je n'en cite qu'une, dans la lettre au père Dinet, un jésuite, où il répond à propos de ces accusations. J'ajoute aussi, ce qui vous semblera peut-être un paradoxe, qu'il n'y a rien dans la philosophie, pour autant qu'elle est conçue sur le mode des péripatéticiens et de quelques autres. Il n'y a rien dans cette philosophie ancienne, donc, qui ne soit nouveau. Et il n'y a rien dans la mienne qui ne soit ancien. Car, quant au principe, j'admets seulement ceux qui furent communs à absolument tous les philosophes jusqu'à maintenant, et qui sont donc, par cela même, les plus anciens. Donc la thèse de Descartes, c'est de dire, si un philosophe énonce pour la première fois une thèse absolument vraie, cette thèse est éternelle. Parce qu'elle n'est pas vraie pour un moment, elle est éternelle. Et c'est intéressant parce que d'une certaine manière, même une thèse sur l'histoire, si elle est vraie, devient une thèse éternelle. C'est-à-dire que la thèse de Marx sur la plus-value, qui est liée à un moment historique du développement de l'économie, si elle est vraie, est donc éternelle. C'est la plus ancienne. C'est pourquoi Marx, d'ailleurs, a essayé de montrer comment il y avait dans les étapes antérieures du développement économique l'équivalent de ce qui, à l'époque moderne, est nommée par lui la théorie de la plus-value. Alors on pourrait trouver des exemples chez Hegel. Même une vérité historiquement déterminée, si elle est absolument vraie, est éternelle, elle était donc là au début. Bon. Alors, cette thèse de Descartes, elle est absolument fondamentale, puisque Pascal, qui, vous savez, était un lecteur de Descartes et un cartésien en philosophie de première qualité, l'avait très bien reprise. C'est dans la préface du Traité du Vide, dans l'édition Braunschweig-Boutroux, tome 2, page 145. Enfin, c'est un texte très célèbre, je le relis quand même. « Quelque force qu'est cette antiquité, la vérité doit toujours avoir l'avantage, quoique nouvellement découverte. » Ça, c'est l'opinion des modernes. Une vérité nouvellement découverte doit toujours l'emporter sur une vérité ancienne. Pourquoi ? Puisqu'elle est toujours plus ancienne que toutes les opinions qu'on en a eues, et que ce serait ignorer sa nature de s'imaginer qu'elle a commencé d'être, sous-entendu vrai, et d'être du temps qu'elle a commencé à être reconnue. C'est-à-dire que une innovation, ça n'est pas la production d'une nouvelle vérité, c'est la production nouvelle d'une vérité qui était déjà latente depuis le début. Donc ici, chez Pascal, ce qui est remarquable, c'est que l'innovation et la tradition coïncident. L'argument de Pascal et de Descartes, qui, je crois, est l'argument de tous les philosophes quand ils disent « j'ai trouvé ». Quand ils énoncent leur principe de tous les principes, pour parler le langage de Husserl, ils ne disent pas quelque chose de nouveau. Ils disent quelque chose d'absolument vrai. Et donc, normalement, ça doit déjà se trouver chez Aristote, au minimum. Vous prenez Lévinas, le cas de Lévinas. Lévinas pense que l'éthique, Lévinas, dont les archives sont à l'IMEC, Lévinas, à l'abbaye d'Ardenne, ici, Lévinas donc, veut démontrer que l'éthique, la question du bien et du mal, la question de la morale, ne relève pas de la question de l'être, contre Heidegger. C'est une innovation assez radicale. On peut dire que toute la philosophie moderne a toujours soumis la question éthique à la question ontologique. Il y a très peu d'exceptions, il n'y en a quasiment pas. Eh bien, pour dire autrement qu'être, eh bien, il se reporte, par un coup de force exagéré, à Platon, qui dit à la fin du livre 6 de la République que l'idée du bien est au-delà de l'ousia, et pekeina tesousias. Bon, c'est un coup de force insensé, parce que, évidemment, l'idea tu agatu n'est pas la distinction du bien et du mal, et elle est au-delà de l'ousia parce que justement elle permet à l'ousia, à la substance, à l'essence, comme vous voulez traduire, d'être connue. Bon. Donc en un sens, c'est un contresens massif sur Platon. Du moins, on peut argumenter que c'est un contresens massif sur Platon. On peut dire qu'il est vraisemblable que ce soit une approximation de la part de Lévinas qui n'est pas connu pour être un grand spécialiste de Platon. Bon. Et néanmoins, il avait raison de dire, puisque ce que je dis est absolument vrai, forcément, les grands philosophes, dès l'origine, l'ont dit. Et donc, en l'occurrence, ce sera Platon. Bon, eh bien, c'est très bien. Cette approximation-là, méthodologiquement, est parfaite. C'est-à-dire la distinction entre la tradition et l'innovation est en fait indiscutable, indiscernable. Alors, quand on fait de l'histoire de la philosophie, on peut reconnaître que la tradition devient à ce moment-là, en un autre sens, le lieu même de l'innovation. Ou plutôt, le travail de l'historien de la philosophie, c'est de montrer que ce qui se présente comme traditionnel est une innovation. Quand vous êtes philosophe, très souvent, vous êtes confronté, je pense que c'est pas vrai seulement pour la philosophie, hein, vous êtes confronté à des gens qui prétendent dire quelque chose de nouveau. Et il importe de pouvoir voir s'ils disent quelque chose de nouveau ou pas. Très souvent, ce qu'ils disent a déjà été dit 100 fois. Les mauvais philosophes, ça se reconnaît à ça, répètent, sous le nom d'innovation, des choses que les gens qui connaissent un peu la philosophie savent très bien qu'elles ont été dites et répétées par 1000 prédécesseurs. Alors l'histoire de la philosophie, lui, fait une démarche inverse. Lui, on lui donne, quand on lui propose dans un texte une position qui est censée être absolument traditionnelle, il peut montrer que c'est une innovation qui s'ignore, que c'est une fausse tradition. C'est un peu ce qu'on appelle la déconstruction. Mais il n'y a rien de plus traditionnel que de pratiquer la déconstruction, comme nous allons voir. Je vais prendre quelques exemples qui sont assez intéressants. Par exemple, Descartes, dans la première page du premier ouvrage, je vais dire qu'il est publié, c'est faux, il ne l'a pas publié, enfin, dans son ouvrage de jeunesse le plus essentiel, Les règles pour la direction de l'esprit, commence par dire que toutes les sciences sont unies par leur origine, à savoir, toutes les sciences, quelque diverses qu'elles soient, procèdent de ce qu'il appelle la sapientia humana, qui est la même. C'est toujours un entendement et une sagesse humaine qui produisent toutes les sciences. Ce faisant, en disant simplement ceci, vous ne comprenez que c'est une innovation que si vous avez lu Aristote. Puisque Aristote base toute sa définition de la science idéale du moins, pas vraiment de celle qu'il pratique, sur le principe qu'il n'y a de science qu'à l'intérieur d'un domaine de réalité qui partage assez de caractéristiques communes pour qu'on puisse établir un discours cohérent sur les différents exemples de cette population antique, si je puis dire. C'est la théorie du genre. C'est seulement à l'intérieur d'un genre qu'on peut discuter, classer, codifier et démontrer des choses à propos des différentes espèces de ce genre. Donc, pour Aristote, il n'y a pas de science unifiée. C'est un point fondamental. Et le discours sur l'être les unifie, mais le discours sur l'être n'est pas une science au sens classique, parce que l'être n'est pas un genre, puisqu'il est universel. Donc Descartes ici joue subtilement sur la tradition pour introduire son innovation sans le dire. Alors on peut prendre d'autres exemples. Quand Descartes, dans le même texte, déclare qu'il faut étendre à tout type de connaissance le type de connaissance que l'on atteint dans le champ privilégié des mathématiques, c'est-à-dire le type de la connaissance certaine, claire et distincte, et donc certaine, on ne comprend ce qu'il veut faire que si on pense à Aristote à nouveau. En effet, pour Aristote, les mathématiques ne valent que dans le champ des mathématiques, c'est-à-dire dans le champ où on peut faire abstraction de la matière, qui est un principe d'indétermination. Donc les mathématiques sont absolument exactes, parce qu'elles sont abstraites, et donc elles ne portent pas sur le monde réel, sur la physique. Elles ne sont pas transposables en physique. Tout l'effort de la génération de Descartes, comme on sait, était justement d'utiliser des modèles physiques, des modèles mathématiques en physique. Pour cela, il faut faire abstraction de la matière. Et ce que Descartes dit, c'est qu'il faut considérer les choses matérielles, physiques, comme si elles n'étaient pas matérielles, autant que faire se peut. Et c'est pourquoi les premières lois de la physique mathématique portent sur ce qui a le moins de matière dans la nature physique, c'est-à-dire la lumière, la chute des corps et les mouvements mécaniques dans l'espace. Et donc, il faut immatérialiser ce que l'on veut connaître avec des modèles mathématiques. Bon, c'est une révolution, mais cette révolution, vous ne la voyez que si vous êtes absolument fixé sur ce qu'elle retourne, à savoir, en l'occurrence, l'épistémologie d'Aristote. Donc on peut prendre de très nombreux exemples où c'est uniquement la connaissance de la tradition qui permet de comprendre l'innovation. Plus l'innovation est radicale, plus elle doit être vue dans l'effet de perspective de la tradition. Et plus l'innovation est radicale, plus la perspective est longue. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'innovation entre deux philosophes contemporains. Il y a toujours une innovation par rapport à un philosophe très long. Deux philosophes contemporains, ils sont simplement en désaccord. Si c'est un désaccord sérieux, il provient de beaucoup plus loin. Mais si c'est simplement une dispute entre deux philosophes, rassurez-vous, vraisemblablement, les deux ont tort. Tous les deux ont raison, mais très superficiellement. Les disputes entre philosophes, c'est des disputes entre parts de marché, pour une part du marché idéologique. Les désaccords entre les philosophes sont des désaccords sur la longue durée qui se font, si je puis dire, dans le grand respect que chacun des philosophes porte à l'autre. Parce qu'être en désaccord avec Aristote n'est pas à la portée de n'importe qui. Il ne suffit pas d'être anti-aristotélicien pour être en désaccord avec Aristote. Il faut d'abord avoir été très aristotélicien. Il faut donc faire ici résolument l'éloge de la tradition comme exigence méthodologique de l'innovation, présupposé méthodologique de l'innovation. Ralph Waldo Emerson, qui a dit des choses très intelligentes, a dit aussi des choses qui ne sont pas si intelligentes que ça. Et il a défini la tradition comme « the dead memory of the living », la mémoire morte des vivants. Et un très grand érudit, spécialiste de l'histoire des dogmes, Pelikan, qui était un Hongrois qui a fait une très belle carrière à Yale, a dit que la tradition, c'était non pas la mémoire morte des vivants, mais la mémoire vivante des morts. La mémoire vivante des morts. C'est-à-dire, sans la mémoire vivante des morts, les vivants ne peuvent pas innover. On ne peut pas construire en trois dimensions, en deux dimensions. Et la troisième dimension, c'est évidemment la tradition qui la donne. Alors, je disais aussi, c'est mon cinquième point, que pour une philosophie ne peut jamais faire l'économie d'une tradition, soit pour la contester, soit pour en susciter une. Ce qui veut dire que s'ensuit un autre résultat, une autre difficulté, c'est le danger de défendre une tradition qui n'existe pas, une fausse tradition. C'est-à-dire que je vais soutenir ce paradoxe, que la plupart des usages de la tradition sont des usages qui revendiquent une tradition, pour conserver les choses en l'état, une tradition qui n'a jamais eu lieu. Je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est l'usage du mot métaphysique lui-même. C'est intéressant que le mot métaphysique est en fait n'est pas un concept philosophique avant, grosso modo, certains de mes collègues ici feront des remarques, mais ce sont des remarques de détail, est ignoré avant le commentaire par saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, des 12 livres des métaphysiques d'Aristote. Et même dans ce commentaire, qui est le premier grand commentaire, enfin, c'est le principal commentaire latin, et le plus répandu, dans ce commentaire, le terme de métaphysique lui-même est justement le terme qu'il s'agit de définir, et parce qu'il n'a pas été défini auparavant, Et saint Thomas donne trois possibilités pour le définir, qu'il n'unifie jamais dans son commentaire. La première, c'est que la métaphysique, ça pourrait être la science des premiers principes, la prima philosophia, que ça pourrait être la science des substances séparées, scientia divina, theologia, ou bien ce serait la science de l'étant en tant qu'étant, qui est la métaphysique au sens qui plus tard deviendra l'ontologie. C'est très curieux de voir que quand on introduit métaphysique, c'est précisément parce qu'on n'a pas de définition unifiée. Et jamais Aristote lui-même n'emploie le terme métaphysique. C'est intéressant de voir que ce n'est qu'au XIVe siècle qu'on commence à considérer que métaphysique est un concept et non pas un terme indéfini en attente d'une conceptualisation. C'est uniquement avec Suarez au XVIe et Duinscott début XIVe, les questiones métaphysiques, que le terme va devenir standard, si je puis dire, avec les difficultés dans lesquelles je n'entre pas de l'histoire du concept de métaphysique. Mais prenons un autre terme, lui aussi très connu, le terme d'ontologie. Tout le monde, même si on n'est pas philosophe, sait bien que l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être, ou de l'étant en tant qu'il est. Il y a déjà une ambiguïté. On parle donc de l'ontologie d'Aristote, ou de saint Thomas. Or, ce terme est totalement ignoré des Grecs et des médiévaux. Il n'apparaît qu'en 1606, sous la plume d'un auteur dont il n'est peut-être pas injuste de dire qu'il est relativement méconnu, je veux dire Lorardus, à Saint-Gallen. Il est repris par un autre calviniste, Goclinius, à Cologne en 1613. Et il ne finit par s'imposer qu'en 1664, dans la Metaphysica de Ante de Johannes Klauberg, qui, la chose est comique, est un cartésien, et un cartésien de stricte obédience. On peut donc dire que le concept d'ontologie est un concept cartésien. Or, traditionnellement, on a toujours reproché à Descartes d'avoir ignoré la question de l'être. C'est faux, enfin, peu importe, c'est le reproche classique des gens qui défendent la tradition. Les gens qui défendent la tradition disent il a abandonné la question de l'être et il a substitué la question de l'être la question de la connaissance. C'est pour ça que c'est un penseur subjectif et non pas objectif. Ben, les gens qui disent ceci, souvent d'ailleurs des théologiens modernes, font un énorme aveu d'ignorance. Parce que, un, ni Aristote ni saint Thomas n'ont jamais prononcé le mot ontologie. Deuxièmement, parce que l'ontologie ne concerne pas, quand c'est institué à la deuxième moitié du XVIIe siècle par un cartésien de stricte obédience, ne définit pas l'étant, mais définit l'étant comme le cogitable. Est étant tout ce qui peut se penser. Ce qui est la définition moderne de l'étant. Pour nous, un étant, c'est pas seulement un existant, c'est aussi une essence, un concept, une essence concevable, un possible. Et la définition du possible, c'est que justement, on peut le penser. Au point qu'on peut en arriver à dire que même les contradictions logiques sont des étants en un sens, puisqu'on peut les penser. On ne peut pas les penser selon les principes de la logique, mais on peut au moins les représenter. Elles sont pensables. Il y a tout un débat sur lequel je ne reviendrai pas entre Russell, Husserl, Bolzano et puis Meinong. Oui, ici, la pensée traditionnelle, disons du 19e, une grande partie du 20e siècle, la pensée néo-thomiste, etc., qui maintient la tradition de la métaphysique et de l'ontologie en philosophie, est une fausse tradition. Puisque dans l'histoire, ces termes ne sont justement pas utilisés par les auteurs dont ils prétendent qu'ils représentent la vraie philosophie de la tradition. Il y a même encore un exemple encore plus intéressant. Tout le monde connaît l'analogie de l'être chez saint Thomas d'Aquin. C'est un terme analogué à Antis que saint Thomas d'Aquin n'a jamais écrit. On le sait, saint Thomas a été mis en ordinateur entièrement, très tôt d'ailleurs. Il n'y a jamais d'analogie. Donc, tous ces termes qui représentent la tradition philosophique classique sont des termes modernes. Et alors, on peut même pousser le paradoxe jusqu'à sa pointe sur la notion justement de philosophie non historique, de philosophie sinon éternelle, de philosophie pérenne. Il y a un concept de, par opposition aux écoles de philosophie qui changent dans le temps, qui sont toujours variables, qui sont donc fausses, ou très partiellement vraies, on a pu opposer, il y a toute une théorie, la philosophie pérenne, philosophia perennis. Et l'effort de la philosophie, ce serait de remonter à ce qui est commun à tous les philosophes, si on fait du concordisme, ou à une philosophie du sens commun, par exemple, qui serait la philosophie que tout le monde a naturellement et qu'il faut, à cause de laquelle il faut oublier toute la philosophie des philosophes qui, comme chacun sait, est un ensemble de délires savants. Donc il y aurait une philosophie unique, qui serait d'ailleurs une philosophie œcuménique, toutes les religions disant la même chose, toutes les philosophies au fond disant la même chose, etc. Il y a une philosophie pérenne. Et il y a des gens qui cherchent toujours à retrouver cette philosophie pérenne. On comprend très bien pourquoi, parce que ça simplifierait quand même beaucoup les problèmes. Or, ce qui est intéressant, c'est que le terme de philosophie pérenne, de philosophie sans date, ce terme a une histoire. Et le De Philosophia Perenni, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, enfin j'ai mis un certain temps à l'apercevoir, on peut le lire dans des bibliothèques, bien que quoi qu'il soit maintenant assez rare à trouver, a été publié en 1540 à Lyon, et republié ensuite à Venise, à Paris en 1578 et à Venise en 1591, De Perenni Philosophia. Alors, ce De Perenni Philosophia a été écrit, énorme bouquin, par Stoïkos, qui était en fait un évêque orthodoxe, enfin nous dirions maintenant orthodoxe, de Crète, qui, au moment où les Turcs ont repris le contrôle de toute cette région, s'est réfugié comme tout le monde à Rome, avec sa bibliothèque. Il a d'ailleurs été bibliothécaire de la bibliothèque pontificale, et il était envoyé, entre autres, au Concile de Trente. C'est un monsieur important et fort savant. Et lui a repris cette vieille thèse qu'on trouve chez les premiers pères de l'Église, mais qui remonte à Platon, à savoir que les Grecs eux-mêmes ont appris la philosophie chez les Égyptiens, qui les tenaient des Indiens, etc. Et alors, dans un souci apologétique, Stoïkos a repris des arguments, encore une fois épars chez les pères, selon lesquels la Trinité c'est déjà dans Platon, la création c'est déjà dans Aristote, et que tout ceci était dans les livres sacrés de toutes les religions, etc. Il a fait un énorme livre de compilation de toutes les anticipations de la vérité absolue qui est la théologie chrétienne, qui est la vérité des philosophes païens compris et des philosophes non-européens compris. Et c'était cela, la philosophie pérenne. Alors ça correspond à l'époque de je ne dirais pas de la Renaissance, du reflux des bibliothèques de Byzance à Rome et au grand développement. Il y a d'autres noms qui sont liés à ce genre de littérature. Platon, bien sûr, et puis à un niveau plus élevé, Nicolas de Cuse. Bon, mais laissons ceci de côté. Ça veut dire que le terme de philosophie éternelle, pérenne, est un terme qui lui-même a une histoire. Alors, il y a une histoire qui n'a pas duré d'ailleurs très longtemps, puisqu'on peut dire que la fin de la philosophie pérenne, c'est Hegel. Et encore, ce n'est pas de la philosophie pérenne, parce que c'est une philosophie qui est historisée. C'est une pérennité historisée dans le cas de Hegel. Mais enfin, la philosophie pérenne a une date de naissance et une date de mort. Donc c'est encore un des cas où tout effort au nom, non seulement de l'innovation, mais même au nom de la tradition, de faire comme s'il n'y avait pas de tradition. C'est-à-dire que la vérité est la même pour toujours, il n'y a même pas de tradition, elle est là. Tous ces efforts pour se soustraire à l'exigence a priori de cet a posteriori qu'est la tradition sont voués à l'échec. Donc, la question est de savoir ce que nous pouvons tirer de la... Je suis, par souci de ne pas être trop long, je vous passe d'autres exemples à mes yeux beaucoup plus amusants encore et beaucoup plus éclairants sur ce qui se passe quand on ne voit pas que l'évidence anhistorique qu'on invoque est en fait prise dans une tradition. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans quelle tradition on est et qu'on pense qu'on est hors tradition parce qu'on a une vérité absolue. Donc ça permet de... Parce que quand on n'est pas conscient que toute position philosophique est prise dans une tradition, entre celle qu'elle détruit, celle dont elle provient et celle qu'elle inaugure, toute position philosophique est comprise dans ces trois traditions-là. Si on ne comprend pas ça, on pense qu'il y a des vérités philosophiques éternelles. Et donc, on relie tout autre énoncé philosophique en le corrigeant à partir de la vérité supposée éternelle, non historique et non prise dans une tradition. C'est-à-dire qu'on... C'est ce que faisaient les marxistes de la grande époque. Les marxistes de la grande époque... Parce que les marxistes de la grande époque disaient que la philosophie réelle, le matérialisme dialectique, et donc tient sa scientificité du fait qu'il est historique. Or, leur vision était justement non historique. C'est-à-dire que le marxisme étant entièrement vrai, bien que revendiquant une autorité basée sur une interprétation scientifique de l'histoire, les vérités supposées du marxisme étaient donc définitivement prouvées, donc anhistoriques. Ce qui permettait de relire l'histoire avec des raisonnements du style suivant. Pourquoi est-ce que Gassendi est un plus grand philosophe que Descartes ? Thèse classique de l'historiographie marxiste. Alors que Gassendi est... Parce que Gassendi est un athée. Alors pourquoi est-ce que Gassendi est un athée ? Parce que ça, il faut l'expliquer quand même. Parce que Gassendi était un pieux chanoine de la cathédrale de Digne, un homme très religieux, très connu pour ses sentiments. Là. Et, alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il était athée ? Alors qu'on accuse Descartes d'être athée, jamais Gassendi. Alors le motif historique est tout à fait compréhensible. Il était anti-aristotélicien. Et il était anti-aristotélicien en physique, entre autres. Et pour être anti-aristotélicien en physique, il y avait deux solutions à cette époque. Ou bien vous étiez un grand mathématicien et vous faisiez du Descartes, du Kepler ou du Galilée. Il n'était pas du tout mathématicien, Jérôme. Il était donc atomiste. Épicure était le contre-modèle Aristote. Donc il était épicurien. Alors vous direz, le fait d'être épicurien, hein, est-ce que ça indique que vous êtes un athée et donc un matérialiste ? Là, il y a encore un schéma. L'argument, mais c'était l'argument développé par Olivier Bloch, qui fut, je n'ai pas été son étudiant, mais presque. C'était un homme très respectable, très savant, très sérieux, pour lequel j'ai eu toujours de l'admiration intellectuelle et de l'amitié. Mais il y était. Bon. Donc, alors, l'atomisme était la voie royale pour l'athéisme. Pourquoi ? Parce que, en un sens, la présupposition de la matière pour expliquer la nature, c'est du matérialisme, alors Platon est matérialiste, Aristote est matérialiste, en un sens, même Plotin, d'une certaine manière, matérialiste. Bon, la Bible aussi, puisque Dieu a créé à partir du tohu-bohu, donc bon, c'est pas suffisant. Non, il y avait une explication beaucoup plus simple. C'est que Marx a écrit sur Épicure. Et donc, que Marx écrive sur Épicure est une preuve suffisante de son caractère marxiste. Alors vous me direz, tout ceci est absurde, ça n'a aucun sens. C'est de l'amalgame stalinien. Oui, Mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'amalgame stalinien dans le domaine des idées? C'est pas du tout parce qu'on est un mauvais historien des idées. C'est parce que on pense qu'il y a des vérités, même une vérité basée sur l'interprétation historique de l'histoire, l'interprétation scientifique de l'histoire, qui sont hors tradition, comme on dit, hors sol. Et donc, qu'on peut, d'un point de vue supposé absolu, hors tradition, réinterpréter toutes les positions du point de vue de ce qui est au fond leur vérité, même si historiquement ça ne tient pas. Alors il y a de très nombreux exemples. Je prends celui-ci parce qu'il est, il est amusant pour les historiens du XVIIe siècle. Le même raisonnement peut être fait à propos du statut qui a été accordé à Montaigne. Donc, il faut bien comprendre que admettre que tout énoncé philosophique est pris dans un jeu de tradition, hein, j'en ai dénombré au moins trois qui reviennent toujours quand une vérité philosophique prétend être une innovation absolument vraie. Hein, celle qu'elle détruit, celle passée dont elle se revendique et qu'elle fait redécouvrir, et la tradition qui va commencer à se développer à partir de ce nouveau socle. Bon. Donc, toute philosophie qui ne comprend pas à quel point ces innovations supposent un jeu très complexe de traditions sombre dans l'insignifiance ou dans l'idéologie ou dans les deux. Et je pense que ceci est une leçon qui vaut pour d'autres disciplines. Pour l'histoire de la littérature, évidemment, mais pour d'autres disciplines aussi. Alors, je vais conclure là-dessus parce que je ne voudrais pas... Nous avons beaucoup de mal, enfin les philosophes ont beaucoup de mal, à admettre que la vérité est liée, enfin la vérité est destinale. Je ne dirais pas qu'elle est historique parce que le terme est trop ambigu. Il n'y a de vérité que dans un jeu qui est celui de la tradition. Heidegger dit quelque part... Zukunft ist immer Herkunft. L'avenir, c'est d'abord l'origine. C'est dans Unterwegssprache. Vous n'avez pas d'avenir si vous n'avez pas d'origine. C'est exactement ce qui se passe dans la question de la tradition. Vous n'avez pas d'innovation si vous n'êtes pas dans un flux. Alors le paradoxe, c'est qu'une vérité... j'allais dire, pour de bon, ne peut pas être non traditionnelle, non prise dans ce jeu de naissance et de disparition, hein, d'Auxesis et de Phtora, de Genesis et de Phtora. Il y a une historicité de la vérité. Non pas des vérités fausses, mais des vérités vraies, si je peux m'exprimer ainsi. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que le monde n'est pas éternel. La science maintenant, les scientifiques commencent à le dire. Contrairement à ce qu'on a pu penser à l'époque de la modernité, le monde n'est pas éternel. Il a sans doute commencé. Il va sûrement finir. Le monde n'est pas éternel. Et ceci est une vérité. Et une vérité, peut-être pour de bon. La philosophie a des vérités pour de bon qui ne sont pas éternelles. C'est-à-dire qu'on peut contester la notion de vérité éternelle. Si une vérité en est une, alors elle n'est pas éternelle. Et ceci, ce n'est pas du relativisme. Mais bon, c'est... Ça, le paradoxe de la situation philosophique contemporaine. Alors maintenant, en conclusion, un dernier point. J'avais dit que je parlerais de la théologie par opposition. Alors, c'est intéressant parce que la théologie a aussi un concept de tradition, naturellement. Alors, la différence entre la théologie, ici je parle de la théologie chrétienne, le problème de la tradition en philosophie, c'est qu'aucune tradition ne peut revenir au commencement. Le commencement nous est inconnu. Nous pouvons tenter de répéter le commencement, mais c'est nous qui l'inventons, et c'est d'ailleurs très bien comme ça, c'est la seule manière de concevoir le commencement. Donc nous ne savons pas où est le commencement, donc notre tradition est toujours imparfaite. C'est nous transmettons ce que nous avons reçu, ce que nous avons trouvé, qui n'est pas exactement le tout de ce qui est à réactiver et penser. Donc nous avons une tradition imparfaite, car le traditum n'est pas atteint. Et les enquêtes sur les pré-socratiques sont intéressantes pour vous en ce sens, c'est-à-dire nous ne savons pas quelle est l'origine. Et ce débat sur qui est le plus ancien qui pourrait avoir accès à l'origine est un débat qui a occupé toute la pensée ancienne. Justement, ce ne sont peut-être pas les Grecs, ce ne sont peut-être pas les Égyptiens, c'est peut-être les Juifs, c'est peut-être les Indiens, c'est peut-être... Ah, bon. Et donc, en philosophie, l'origine ne peut pas être transmise, elle ne peut pas, on ne peut pas, par transmission, avoir accès en retour à l'origine. C'est pourquoi, j'arrive à la conclusion que je disais à l'instant, les vraies vérités ne sont pas éternelles. En théologie chrétienne, c'est tout à fait différent. Parce qu'en théologie chrétienne, l'idée de tradition, c'est la tradition, évidemment, la tradition de l'enseignement, des institutions ecclésiastiques, etc. Mais cette tradition est elle-même fondée par le fait que le Christ est lui-même une tradition. Il y a cette thèse fondamentale que l'on connaît, qui se trouve dans saint Paul, dans l'Épître aux Romains 8:32, saint Paul dit que Dieu n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré, paradoken, l'a livré, c'est-à-dire l'a transmis. Paradosis, c'est la transmission de la tradition. Aussi, c'est transmission, tradition, ou le fait de trahir quelqu'un, etc. Donc le Christ a été livré. C'est l'intérêt de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu est transmis, livré, abandonné, comme vous voulez, et trahi, trahitour, et trahi dans l'humanité. Et s'il est le Logos, il est l'Arché. C'est donc le commencement a été incarné, donné. Et alors, saint Paul ajoute dans un texte très célèbre de la 1 Corinthiens 11 que, je lis ce texte, vous allez voir pourquoi il me fait évidemment penser à la question de la tradition. « Moi, ce que j'ai reçu, paraît la bonne, ce qui m'a été transmis, ce qui m'a été traduit du Seigneur, je vous l'ai transmis, paraît d'Oka, à mon tour, à savoir que durant la nuit où il a été transmis, livré, par Edidetto, le Christ a pris le pain, le rompit, a dit « Ceci est mon corps, donné, dit Domenon, et vous ferez ceci en mémoire de moi. » Ça veut dire que, dans la vision paulinienne des choses, la transmission de l'origine, qui est l'incarnation, se trouve répétée dans la scène eucharistique. C'est-à-dire que tous les fidèles ont accès, sacramentellement bien sûr, à l'origine. Ce qu'il faut retenir ici, ça n'est pas la théologie de l'Eucharistie que je serais ravi de pouvoir développer ici, mais c'est ni le lieu ni le temps. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en théologie, dans la vie spirituelle en général, pas seulement sans doute dans la vie spirituelle chrétienne, il y a la prétention, la question de savoir s'il est juste ou fausse ici, la prétention d'avoir accès à l'origine. C'est la prétention que la philosophie ne peut pas avoir. La philosophie ne peut pas dire qu'elle peut dire qu'elle ne vit que de tradition, et que c'est la condition de possibilité de ces innovations, de ces ruptures avec la tradition, nous l'avons vu, mais elle ne peut pas dire qu'elle est une tradition achevée. C'est une tradition inachevée et inachevable. Alors, y a-t-il des cas où la tradition peut être achevable ? C'est-à-dire où la tradition peut transmettre l'accès à l'origine. Alors, c'est une question qui se pose dans différents domaines. Bon, je, en théologie, il y a une remarque de fabrication claire. Il y a des domaines auxquels je songe, mais ce ne sont sûrement pas les seuls. Il y a le domaine littéraire, de savoir si certains textes ne mènent pas le lecteur devant ce qui est vraiment arrivé et d'arriver d'originel à l'auteur. Et que l'auteur a encapsulé dans son texte non seulement son expérience personnelle, mais une expérience si radicale qu'elle est universalisable. Alors ceci ne vaut que pour de très grands textes, mais c'est une question qui peut se poser. L'autorité des classiques vient du fait que quand vous lisez Homère, quand vous lisez Racine ou Shakespeare, ben vous ne lisez pas d'une histoire qui est racontée par un auteur pour quelques lecteurs. Vous avez accès au noyau dur de votre propre réalité. De cette manière, vous avez accès à une certaine forme d'origine. Alors, il y a aussi le cas des arts où il y a une performance. Sans doute la musique, l'opéra, le théâtre en ce sens, les actes où il y a, justement, les arts où il y a un acte, un performatif, ce qui fait d'ailleurs un point commun avec la liturgie, la théologie et la liturgie, parce que la liturgie, c'est une suite de performatifs. Quand il y a un performatif, la question de la tradition prend une autre dimension. En philosophie, y a-t-il des performatifs ? Ça se discute, hein. Ça se discute beaucoup. Parce que la philosophie s'est mise dans la position d'un savoir théorique. D'où la force d'ailleurs de Lévinas, qui prétend sortir de l'aspect théorique des choses. Donc ici, la question de savoir si la tradition, le rapport tradition-innovation, dont nous avons vu à quel point il est complexe, ne peut pas, dans certains cas, en dehors de la philosophie, être en quelque manière suffisamment étroit pour qu'il y ait transmission de l'originel. Alors, c'est sans doute possible dans tout ce qui implique une performance. Enfin, partiellement possible, par degré. Dans ce qui implique une performance. Pour autant que la philosophie n'est plus performative, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait une redécouverte tardive du performatif, c'est parce qu'elle le fait, parce que pour elle, c'est tout à fait étonnant. Alors que, en fait, toute la littérature ancienne est basée sur le performatif. Voici les points que je voulais vous indiquer en espérant que le cas particulier de la philosophie peut être éclairant par comparaison pour d'autres disciplines. Je vous remercie de votre attention.